terrain de recherche, les coulisses de la recherche au campus Condorcet.
Bonjour Denis Péchanski, bonjour Francis Eustache. Bienvenue dans Terrain de recherche. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'étude de la mémoire et plus particulièrement à la mémoire des attentats du 13 novembre à travers votre programme de recherche, le programme 13 novembre, que vous co-dirigez et qui est hébergé au campus Condorcet. Je vous présente rapidement, vous Denis, vous êtes entre autres, car vous avez de nombreuses casquettes, historien de formation, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et vous vous concentrez sur les questions de mémoire. Vous, Francis, vous êtes neuropsychologue, directeur d'études à l'EPHE, directeur de l'unité neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à l'INSERM à Caen et spécialiste de la mémoire humaine. Et la mémoire, c'est justement ce qui vous rassemble, car avant de lancer au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 le programme de recherche 13 novembre, vous collaboriez déjà depuis quelques années, toujours sur cette question de mémoire. Alors, Denis, racontez-nous comment tout a commencé.
En fait, tout a démarré à la fin des années 2000, en 2008. Je suis retrouvé à New York à essayer de réfléchir aux questions de mémoire entre Mémorial de Caen, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé, puisque je préside le conseil scientifique du Mémorial de Caen, et puis le futur Mémorial 9-11, bon, sur le 11 septembre 2001. Et en même temps, parce qu'il y avait une unité mixte, CNRS, New York University. Et je voulais poser une question, partir d'un postulat sur la mémoire. C'est-à-dire qu'il était, à mon sens, impossible de comprendre pleinement la mémoire collective si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, et qu'il était impossible de comprendre pleinement ces dynamiques si on ne prenait pas en compte l'impact du social.
Francis, sur cette rencontre ?
On s'est rencontrés, comme Denis vient de le dire, au musée mémorial de Caen, c'est tout un symbole. Denis travaillant donc sur la mémoire collective et moi travaillant plus sur la mémoire individuelle, sur la mémoire normale, la mémoire pathologique. Et on s'est rencontrés, on a tout de suite vu plus que des analogies, mais cette nécessité fondamentale de faire concilier nos disciplines, de travailler ensemble.
Et avec Francis, on a au fur et à mesure approfondi nos réflexions et puis exploré les différents champs que permettait cette mise en évidence de nouveaux outils.
Ces travaux vous ont permis d'avoir un socle de connaissances solides sur la mémoire. Et là, les attentats du 13 novembre surviennent et vous avez immédiatement l'idée de faire quelque chose. Vous vous appelez et vous vous dites « on y va, on fonce ».
En fait, on a réagi chacun de notre côté. Francis, en se disant il faut qu'on approfondisse sur le trouble de stress post-traumatique qui est la pathologie centrale après ce type d'attentat et puis d'autres phénomènes, bon, mais il reviendra dessus. Et puis moi, de mon côté, c'était dans ma cuisine et je me suis dit, aïe, j'ai trouvé. On va faire 1000 entretiens, 4 fois en 10 ans, on va essayer de retrouver les mêmes. On va demander à l'INA, à le CPAD, donc les images de l'armée, d'organiser ce recueil d'images, et puis les protections de ces données, bien entendu. Puis nous, on va mettre sur pied ce espèce de programme de 12 ans, et toujours dans l'idée d'articuler mémoire individuelle et mémoire collective. Et donc, on s'est téléphoné, et il s'avère que Francis était en train de réfléchir exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire, on va réagir avec nos armes. Et nos armes, c'est les armes de la connaissance et de la recherche.
Et tout de suite, vous êtes suivi
Sur un sujet comme ça, on n'a jamais eu la moindre réticence, sauf, évidemment, à s'interroger sur la possibilité de le mettre en œuvre, parce que c'est un très gros programme. Il y a eu un coportage scientifique, INSERM-CNRS, et un portage administratif avec ESAM Université.
Alors, l'année 2015 était une année lourde, puisqu'il y a eu d'abord janvier, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Montrouge. Des scientifiques se sont mobilisés à ce moment-là, notamment ce qui s'appelle maintenant Santé publique France. Ils ont mis en place une étude, je pense que ça nous a aidés à réfléchir. Puis il y a eu le 13 novembre, et là il fallait aller très vite. Quelque part on était prêts, même si évidemment on n'avait pas pressenti ce qu'allait se passer, et tout allait très vite. On a eu ces contacts au plus haut niveau, les grandes institutions, des universités, des collectivités territoriales, très vite les associations de victimes. Et tout ça s'est mis en place. Les gens étaient extrêmement mobilisés. les personnels de la recherche, les personnels administratifs. Et on a pu, comme ça, démarrer les études au mois d'avril.
Alors Denis, vous le disiez, un programme qui va durer 12 ans. Il se divise en plusieurs études. Il y a l'étude 1000 qui analyse les témoignages de 1000 volontaires, plus ou moins proches physiquement des attentats. Il y a l'étude Remember qui analyse les effets d'un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau. Il y a l'étude ESPA sur la santé mentale des victimes. L'étude CREDOC sur la mémorisation et la perception des attentats par la société française. Et une des particularités de ce vaste programme, c'est son aspect transdisciplinaire. 10 disciplines se côtoient, sociologie, histoire, informatique et mathématiques, art et littérature, textométrie, ou autrement dit la statistique textuelle, droit, neurosciences, éthique et santé publique. Alors, comment fait-on pour faire travailler ensemble, comme c'est votre cas, un historien et un neuropsychologue? Est-ce que vous parlez tout à fait la même langue?
C'est pas facile. Déjà, entre un neuropsychologue et un historien, quand on se connaît bien, c'est relativement facile. Mais les 10 disciplines, ça nous remet en cause aussi dans nos certitudes disciplinaires et autres.
Parce que finalement, les disciplines sont interconnectées.
Oui, les disciplines sont interconnectées. Et puisqu'on a utilisé déjà un gros mot, c'est celui de transdisciplinarité, on va expliciter notre affaire. On parle de transdisciplinarité à partir du moment où, non pas, par exemple, je pose, moi, comme historien, une question et je convoque d'autres disciplines pour répondre à la question que je me pose. Et ça, c'est la pluridisciplinarité. Bon. Mais c'est la construction en commun d'un objet de recherche. Alors évidemment, il y a des spécialisations. Quand on va monter le protocole Remember, ça sera plutôt les neuroscientifiques. Quand on monte l'étude 1000, puisque ce sont des entretiens, on sera plutôt avec des sociologues, des anthropologues, des historiens, des psychologues. Mais surtout, on se pose toujours la question de l'interaction. Toutes les personnes, quelles qu'elles soient, répondront 4 fois en 10 ans aux mêmes questions. Pour prendre ce seul exemple, on a dans les questions qu'on pose, toute une batterie concernant ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Et évidemment, ce sont des questions qui ont été construites avec des neuroscientifiques, avec des psychologues, avec psychopathologues. Enfin, je veux dire, on a ensemble construit cette dimension-là. De même qu'on a essayé de distinguer des cercles. Puisque notre objectif, c'est non pas de travailler sur l'événement lui-même, mais de travailler sur la mémoire de l'événement. Et donc, nous intéressent bien sûr ceux qui sont au plus proche de l'événement, mais aussi, et c'est ce qu'on appelle le cercle 4, 3 villes dans les régions, Caen, Metz, Montpellier, et c'est très riche, parce que ils sont à distance, mais ils ont vécu aussi le 13 novembre. Et évidemment, ils ne l'ont pas vécu de la même façon que ceux du cercle 1, qui sont les rescapés, les témoins, les intervenants, policiers, médecins, Croix-Rouge, politiques, élus, bon, et les parents endeuillés. On va définir ce cercle 1 comme étant les personnes exposées. Mais mon voisin neuropsychologue va vous dire, ah oui, mais ce sont aussi des personnes exposées potentiellement à un trouble de stress post-traumatique. Mais on voit bien que cette définition du cercle 1 était tout à fait logique pour nous, historiens, sociologues, anthropologues, mais elle était tout autant, et c'est pour ça qu'on l'a travaillé en commun, pour les neuroscientifiques qui vont pouvoir utiliser le témoignage de ces personnes aussi pour définir, pour mieux appréhender leur profil.
Comment vous menez ces entretiens? Ils sont filmés, n'est-ce pas? C'est toujours le même cadre?
C'est des entretiens qui sont menés suivant exactement le même protocole, les mêmes questions sont posées à tout le monde et on a un guide aussi de comportement de ce qu'on appelle les enquêteurs, qui sont les intervieweurs, par rapport aux témoins, la façon dont il doit être à l'écoute, dont il doit relancer éventuellement la personne qui est en face, parce que les récits, évidemment, et les comportements ne sont pas les mêmes. On essaye de travailler sur le vocabulaire de ces personnes. En 2016, on voulait 1000 entretiens, on a réussi en 4 mois à en avoir 934, ce qui honnêtement était impensable. Ça donne quoi? Ça donne 1431 heures.
Comment vous allez faire pour analyser autant de données?
Bien, le autant, c'est là l'information, c'est que j'ai eu les chiffres. Pour la phase 1, on a 800 millions de caractère, ce qui veut dire que c'est l'équivalent d'un livre de 400 000 pages. C'est assez raisonnable.
C'est un gros livre.
Et là, il va falloir que nos petits camarades de TXM, hein, qui ont développé une batterie de logiciels qui permet de travailler sur l'analyse statistique de vocabulaire, fassent tourner les machines. Parce que 800 000, hein, on croise 934 personnes avec, je ne sais pas moi, les 300 formes qu'ils utilisent le plus, et puis on essaye de voir ce que ça donne. Là, je peux vous dire qu'il y a du travail.
Donc vous faites intervenir l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle, elle va être mobilisée. Elle va être mobilisée en particulier pour travailler sur l'image. Parce que non seulement on a les textes, mais on a les sons. Et on a les images.
Et qu'est-ce qu'on ressort de ces images ? Des émotions ?
Eh bien, on verra. Évidemment qu'il va falloir travailler sur les émotions. Évidemment qu'il va falloir travailler sur les comportements. Et c'est vrai que les cas limites, ils sont malheureusement nombreux, où la personne, le volontaire, rentre en studio et se met à pleurer au bout de la 10e ou la 20e seconde, va raconter son histoire en pleurant pendant 2 heures. Ou bien plus complexe, évidemment, quand la personne, on sent bien qu'il y a des moments de forte émotion, et puis elle peut continuer, et puis ça recommence. Dans les années qui viennent, l'intelligence artificielle va permettre de travailler effectivement sur ce mixte, cette combinatoire entre l'image, le son, et puis le texte, de fait, le comportement des individus, les émotions sur les visages. On va avoir des outils.
Et vous, Francis, le neuropsychologue que vous êtes, que peut-il retirer de cette étude 1000 ?
Alors, l'étude 1000, elle est fondamentale. Elle est centrale. Elle est d'une richesse incommensurable. Avec ses textes, avec ses visages, avec ses émotions, qui deviennent un patrimoine mémoriel. Ce sera une ressource pour les chercheurs sur le long terme. Avec des outils nouveaux. L'autre point, c'est la deuxième étude. Remember, c'est 200 personnes. Ce sont d'autres outils. Ce sont des outils, cette fois-ci, de la recherche biomédicale. Mais tout a été élaboré en commun. Et donc, on va pouvoir croiser ces données. Parce que les données de l'étude 1000, elles sont aussi très intéressantes d'un point de vue biomédical. Parce que ces personnes ont beaucoup parlé, hein, vous venez de le comprendre. Elles ont exprimé des émotions. Remember permet d'abord de faire un diagnostic. C'est très important. Le diagnostic, très documenté, hein, il n'y a pas simplement troubles de stress post-traumatique, absence ou présence, mais il y a beaucoup de questionnaires qui permettent une approche extrêmement précise du parcours de ces personnes. Et la grande question, c'était, sur le plan biomédical, c'était le trouble de stress post-traumatique. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes développent ce trouble ? Pourquoi d'autres, situées exactement dans le même contexte, ne le développe pas, en mettant au centre l'imagerie cérébrale. À Caen, il existe un des grands centres français d'imagerie cérébrale qui s'appelle Cicéron. Nous avions là les outils pour élaborer un protocole qui permette de comprendre le cœur de ce syndrome, ce qu'on appelle les intrusions. Le fait que les personnes qui sont victimes d'un trouble de stress post-traumatique ont des images comme ça qui leur reviennent. Alors ça peut être des images visuelles, mais ça peut être aussi des sons, des odeurs, et toutes sortes d'images très sensorielles, très émotionnelles, et qui s'imposent à la conscience de ces personnes et qui s'imposent à la conscience au présent. Ce ne sont pas des souvenirs, parce que les souvenirs, on sait que c'est le passé. Là, ce sont ces images qui reviennent et reviennent à nouveau au présent. Donc, on voit les blessures permanentes qui sont provoquées par ces intrusions. Et le challenge, c'était d'évaluer ces intrusions, de les mesurer quand elles reviennent à la conscience des personnes, et également de mesurer la façon dont certaines personnes sont capables de les repousser, de les inhiber. Et pour cela, il a fallu élaborer un protocole. C'est Pierre Gagnepin, ce jeune chercheur INSERM qui était aux manettes, et ce paradigme qu'on appelle le « think, no think », « penser, ne pas penser », a été élaboré pour être mis à disposition, en fait, de la fabrication d'intrusions expérimentales, qui ne sont pas du tout traumatiques. Évidemment, sur un plan éthique, c'était une évidence qu'on n'allait pas proposer des images traumatiques aux personnes, mais on est passé par un autre cadre pour faire en sorte que les personnes avant de passer dans l'IRM, eh bien, développe des intrusions. Et pendant la session d'imagerie, on pouvait mesurer donc la survenue des intrusions et puis également la capacité de réguler ces intrusions. Et c'est ce qui a donné lieu à un article dans Science qui a été publié l'an dernier, où pour la première fois, on montre le mécanisme physiologique et physiopathologique qui conduit dans certains cas, pour les patients, à la survenue de ces intrusions incontrôlables. Et puis pour ceux, au contraire, pour les personnes qui n'ont pas développé le trouble de stress post-traumatique, eh bien les mécanismes qui permettent, qui conduisent en quelque sorte à ce qu'on peut appeler la résilience, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas développé une psychopathologie alors qu'elles ont pourtant vécu un épisode terrible.
Mais c'est là où on reboucle aussi avec les sciences humaines et sociales, parce qu'il faut chercher d'autres facteurs qui, eux, relèvent de leur positionnement, leur situation sociale, familiale, leur horizon d'attente, l'environnement culturel, l'environnement familial. Voilà.
Tout ce travail sur le syndrome de stress post-traumatique va-t-il à terme vous permettre d'améliorer l'accompagnement des victimes ?
Remember, c'est une étude fondamentale. C'est une étude à la fois clinique et fondamentale. Clinique parce qu'elle porte sur des personnes souffrantes, dont certaines ont un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Fondamentale parce que on met en évidence des mécanismes fondamentaux qui sont ensuite exploités soit par nous, soit par d'autres équipes, à des fins beaucoup plus appliquées. Par exemple, dans la phase 3 de Remember, qui va démarrer là, il y a tout un questionnaire et tout un livret qui est travaillé avec les participants qui viennent à Caen et qui sera ensuite mis à disposition sous la forme d'un livret d'éducation thérapeutique pour la communauté des personnes qui souffrent. Remember, ce n'est pas un essai thérapeutique, ce n'est pas une étude thérapeutique, mais c'est une étude qui va avoir des conséquences thérapeutiques.
Toutes ces études menées dans le cadre du programme 13 novembre vont-elles pouvoir être utiles à la société ?
Une mémoire individuelle ou une mémoire de petit groupe qui n'est pas relayée dans la mémoire collective, ça développe des pathologies. La première expérience, enfin deux exemples d'une certaine façon, la première c'était que depuis 2016, la mémoire du 13 novembre devenait de plus en plus, soit une mémoire un peu floue, Paris, soit une mémoire très ciblée, Bataclan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les rescapés des terrasses du Stade de France, pour les parents endeuillés, c'était la double peine. Non seulement ils avaient souffert ce qu'ils avaient souffert, mais on les oubliait. Et ce n'est pas une question d'orgueil, vous imaginez bien, c'est simplement le sentiment d'être en quelque sorte abandonné. Deuxième exemple, les oubliés du Stade de France. On a sorti un premier livre sur le 13 novembre et on a eu un contact par un gars très sympathique d'ailleurs, un ancien major qui était à la retraite de gendarmes montés. Ils sont sur les chevaux, c'est ceux qui régulent les sorties lors des grands matchs. Personne n'était au courant du fait qu'il y avait 13 gendarmes qui étaient là et qui étaient à proximité de l'explosion, à 20 mètres de l'explosion de la première bombe, qui ont pris non seulement le blast, mais qui en plus sont tombés sur le seul mort civil du Stade de France, les nombreux blessés, qui était Manuel Diaz. Personne ne parle d'eux. Et il a suffi simplement que je leur dise, écoutez, on va faire une phase 3 d'entretien à partir de septembre 2021 jusqu'à janvier 2022. On veut, en plus de ceux qui reviennent, trouver 300 nouveaux. Donc, venez, on va vous enregistrer. Simplement, ils disaient, mais vous ne vous rendez pas compte du bien que vous nous faites. Uniquement parce que, je leur ai dit, on va vous écouter. Donc là, on touche du doigt un enjeu majeur, un mode de fonctionnement de la mémoire, l'articulation entre l'individuel et le collectif, et aussi une forme de rôle social de notre recherche, parce que bien sûr, on dit aux autorités, on leur dit, voilà ce qui se passe. Après, vous faites en fonction ce que vous voulez. Mais quand on leur dit, attention, Stade de France, terrasse, ça a tendance à disparaître, eh bien évidemment, ça aura un impact dans la gestion mémorielle. Quand on leur dit Nice, attention Nice, parce qu'il y a une sorte de, à mon avis, une des raisons fondamentales, il y a une concurrence mémorielle dans le 14 juillet, qui est le symbole d'une forme de résilience. Et en même temps, c'est l'horreur de Nice en 2016. Donc, on leur faites attention. Voilà. Tenez compte de ce qu'on est en train de mettre en évidence pour vos politiques mémorielles.
Vous l'évoquiez, Denis Péchanski, ce programme 13 novembre a permis de mettre en lumière ces oubliés de la mémoire collective. Et cela va peut-être permettre d'améliorer les politiques de commémoration. Mais si le programme 13 novembre peut rendre service à la société, il n'en rend pas moins service aussi à la science, en mettant en lumière justement cette nouvelle science, celle de la mémoire.
Vous le dites très bien, c'est effectivement un enjeu épistémologique majeur. C'est de construire de nouvelles sciences de la mémoire. C'est un objectif que nous nous fixons avec Francis, qui a émergé année après année, et qui s'appuie tout simplement sur les piliers qu'on a essayé de voir émerger. Le premier, c'est la dialectique. La dialectique entre mémoire individuelle et mémoire collective. Le deuxième, c'est la transdisciplinarité. C'est-à-dire que nous construisons ensemble, sciences humaines et sociales, neurosciences, sciences de l'ingénierie et mathématiques, informatiques, nous essayons de construire ensemble notre objet d'étude. Et puis le troisième, parce que nous travaillons sur des très grosses bases de données, c'est indispensable, c'est la modélisation mathématique et travail sur les big data. Voilà, ce sont les trois piliers de ces sciences de la mémoire que nous appelons de nos voeux.
Est-ce que cela veut dire que demain, on ne fera plus de la recherche de la même façon ?
Moi, je fais de la recherche clinique depuis quelques années, on va dire. Mais c'était de la recherche clinique sur des maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer ou ce type de pathologie. Mais ce n'était pas un protocole sur la mémoire en train de s'écrire. Vous mettez la radio, vous regardez les journaux, vous lisez les journaux, etc. La mémoire est là. Et c'est ça que nous étudions. Le fait que ces participants viennent, dans le cadre de l'étude 1000, se déplacent à Caen pour participer à l'étude Remember, c'est une mise en contact de la mémoire de ces individus et d'une mémoire collective qui est en train de s'écrire. Et ça, nous le vivons au quotidien. Et ça, c'est une dimension très importante du programme que nous n'avions pas totalement anticipé. Et en fait, ce lien entre mémoire individuelle et mémoire collective, on le vit dans les laboratoires, les membres des laboratoires le vivent au plus près. C'est aussi quelque chose que nous devons être capables de réguler, d'apprivoiser quelque part. Parce que ce n'est pas forcément facile, parce que c'est un protocole différent des autres protocoles. Donc il faut que nos outils s'adaptent à cette situation très particulière. Et donc, c'est ça, les sciences de la mémoire. Les sciences de la mémoire, c'est façonner des outils qui nous permettent de capter tout cela et ensuite les appliquer potentiellement à d'autres populations. Parce que ce que l'on décrit chez les victimes du 13 novembre, du Bataclan, des terrasses ou des abords du Stade de France, on peut le décrire également chez d'autres personnes qui sont confrontées à une maladie. Et là aussi, est-ce que ces personnes vont être reconnues ? Est-ce qu'on va savoir mettre en relation le ressenti de ces personnes, leur mémoire subjective, et ce qui s'écrit autour d'elles ?
On pourrait prendre l'exemple du procès, puisque au moment où on fait notre entretien, et ça va durer encore plusieurs mois, on a le procès des accusés du 13 novembre. Et là, on a comme une illustration de ce sur quoi on travaille. C'est tout à fait stupéfiant, parce que l'une de nos interrogations, c'était de savoir si année après année va se construire ou pas un grand récit partagé. Bon. Et qu'est-ce qui se passe à l'occasion du procès ? Il y a une mobilisation gigantesque des médias, et puis qui s'appuie dans leur compte-rendu sur les témoignages individuels des rescapés, des policiers, des médecins, et qui construisent ainsi un récit à partir de mémoires individuelles. Ils construisent un récit collectif, et ils vont renvoyer ça à la société française. Si la société française écoute et investit en quelque sorte ce grand récit, ça va devenir une mémoire collective. Et cette mémoire collective va influer sur la mémoire individuelle de chacun des citoyens français. On aurait donc cet aller-retour extraordinaire entre l'individu et le collectif dans les deux sens.
Alors merci Denis, le temps file et la conclusion de ce podcast approche. Je vous laisse quartier libre pour le mot de la fin, vous avez chacun une minute. Francis, on commence avec vous.
Le programme 13 novembre, c'est un programme qui produit, c'est un programme aussi qui évolue. Donc pour la partie Remember qui se passe à Caen, il y a deux évolutions notables. Premièrement, l'étude en imagerie cérébrale qui portait sur les grands systèmes cérébraux mesurés via l'imagerie par résonance magnétique. Cette étude, elle évolue avec une autre technique d'imagerie qui s'appelle la tomographie par émission de positons, qui est une technique de médecine nucléaire qui permet de descendre cette fois-ci au niveau de la molécule. On étudie toujours les grands systèmes cérébraux, mais en plus, on étudie les échanges au niveau des synapses, notamment d'un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, qui est impliqué de façon directe dans les mécanismes d'inhibition. Deuxième étude extrêmement importante que nous n'avions pas pu mettre en place jusqu'à présent, c'est une étude sur la transmission au sein de la famille. Au sein de la famille, ça veut dire que les enfants, ça veut dire aussi les cousins. Comment cette mémoire traumatique, comment est-ce qu'elle est transmise ou non transmise ou mal transmise au sein de la famille? Donc ce sont 300 enfants qui viendront à Caen dès l'année 2022. C'est un protocole qui est piloté par une jeune chercheuse qui s'appelle Bérangère Guillory, qui a mis en place avec beaucoup d'autres collègues, là aussi des entretiens, des examens d'imagerie, des examens qui prennent des formes très originales, parfois sous la forme de jeux de rôle, pour comprendre comment cette mémoire se transmet d'une façon qui n'est pas du tout directe au sein de la famille. Comment cette mémoire peut être dans certains cas positive, peut aider ses enfants à évoluer, peut aider ses familles à évoluer favorablement, mais comment aussi, dans certains cas, elle peut être plus négative. Nous avons rencontré les principales associations de victimes et leurs responsables qui nous ont fortement encouragés à mettre en place cette étude sur la transmission, donc cette étude au sein des familles.
Denis ?
Alors, est-ce que ça peut servir de modèle ? La première chose, c'est que, et nous ne l'avions pas cherché, il s'avère que c'est une première mondiale. Bon. Donc, par définition, la question doit se poser de réplication de ce type d'approche. Mais il y a une première condition, c'est une mobilisation extraordinaire de tous les personnels de la recherche. Parce qu'on a parlé beaucoup de recherche, de chercheurs, les ingénieurs, techniciens, administratifs qui participent de cette opération sont tout simplement indispensables à la réalisation de tout ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, ça doit nous inspirer pour d'autres sujets. Je vous prends d'un seul exemple. On peut se dire, tiens, on subit depuis 2 ans maintenant le Covid. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur la possibilité de voir sur le long terme l'impact sur les personnels soignants, s'ils n'ont pas une histoire à nous raconter? La dimension pathologique éventuellement, mais aussi l'image très positive qui est ressortie de cette confrontation au mal et l'image dans la société française. On retrouve les juristes avec le droit, la question du droit de la santé. Enfin bon, voilà. Il y a plein de pistes.
Ce sera votre prochaine étude, Denis ?
Nous verrons. Mais c'est en tout cas une piste qui me semble extrêmement importante. Et c'est un exemple que je voulais donner puisque c'est un exemple qui, évidemment, est dans l'actualité.
Merci Denis Péchanski, merci Francis Eustache pour vos réponses. Un programme 13 novembre passionnant, un travail de longue haleine et une étude qui forcément suscite beaucoup de curiosité et d'intérêt du public. Bonne continuation à vous deux et à l'équipe du programme 13 novembre pour ces recherches. Merci au campus Condorcet, au CNRS et à l'EPHE qui ont participé à l'émergence de ce podcast. Et je dis à bientôt aux auditeurs pour un prochain épisode de Terrain de Recherche.
Terrain de Recherche. Les coulisses de la recherche au campus Condorcet.